Je crois que Dieu va nous apprendre des choses encore ce matin et on va ouvrir notre Bible dans l'évangile de Luc au chapitre 10. Mon message de ce matin s'adresse à quelqu'un qui vit une situation, peut-être qui le trouble, une situation difficile qu'il n'arrive pas à gérer. Moi, je me rappelle de cette situation où moi j'étais, je suis professeur, vous savez, hein, mais avant d'être professeur, on est élève. Et je ne sais pas comment vous viviez les examens, mais certains parmi vous les vivaient très mal. Très mal. Moi, mon premier examen vraiment qui m'a stressé, c'est mon bac de français. Je ne sais pas si ça vous est arrivé de passer le bac de français. Vous avez quelques souvenirs du bac de français? Est-ce que vous avez des souvenirs de la nuit avant le bac de français? Enfin, je veux dire, le jour qui était nuit, la nuit qui était jour. Enfin, je ne sais pas trop. Il y a des bulles dans l'estomac, il y a beaucoup de stress, vous n'êtes pas bien du tout. Et si vous êtes chrétien, vous priez. Et Dieu sait que j'ai prié la veille de mon examen de français, ce bac que l'on passe là, avec beaucoup de stress. Et je m'étais dit, j'avais déjà fait mon plan, parce que je suis comme vous, comment Dieu, tu vas me bénir demain quand je vais passer l'oral. Et vous imaginez déjà plein de façons, plein de méthodes qui seraient bien que Dieu utilise pour vous bénir, d'accord? Vous imaginez, je ne sais pas, c'est encore un peu comme ça. Vous savez, il y a des listes. Je ne sais pas si je parle dans votre langue quand je dis ça, mais nous, on a des listes à apprendre, des listes de textes que l'on prépare à l'avance. Et il faut tirer le bon numéro, quoi. Hein. Il faut que la dame qui va vous interroger ou le monsieur qui vous interroger tire le bon numéro. Et j'étais là, Seigneur, tu diriges cette femme ou cet homme pour qu'il m'interroge sur le bon texte. Parce que déjà, je suis assez stressé pour qu'il m'interroge sur le bon texte. Et je dis, Seigneur, je sais que tu vas avoir... Tu vas être mon secours dans ce jour-là. Et je passais à 10 heures et je voyais les candidats qui sortaient de la salle avant moi. Je dis, Seigneur, console-les, ils ne sont pas bien. Et je rentre dans la salle. Et là, j'ai dit, Seigneur, tu vois, il y a ce texte qui me plaît bien. C'est un poème, je l'ai bien bossé avec ma maman qui était également une prof de français. On a bien répété, ça c'est bon, Seigneur. J'y voirais vraiment ta providence et ton secours si c'est ce texte-là qui sort. Et... La dame, elle me dit comme ça, alors, donc présentez-moi votre liste. Et quand j'ai vu la tête de cette femme, je dis, Seigneur, l'épreuve commence. Parce que c'était une vieille dame avec des petites lunettes sur le nez, bien baissées. Et le feeling passait déjà pas. Je dis, aïe, aïe, aïe. Et elle me dit, alors, montrez-moi votre texte. Et moi, j'étais là, Seigneur, fais qu'elle prenne ce texte, soit ce poème, ou soit qu'elle me fasse... On avait travaillé sur la condition humaine, je ne sais pas si vous connaissez de Malraux. Et je dis, Seigneur, il y a plusieurs textes bien, mais pas ça. Et elle me dit, bon, vous allez prendre dans la condition humaine et vous allez me faire le texte qui parle de la mort de Kyo. Et alors là, moi, ingénu, naïf, pas très intelligent, je dis, mais madame, on n'a pas appris ce texte-là. Elle dit, bah oui, ça s'appelle le hors-liste. Et là, j'ai travaillé. J'ai fait ce que j'ai pu. Et au moment où j'étais en train de travailler ce texte, j'ai senti la grâce de Dieu sur ce texte. Un texte que je n'avais pas du tout anticipé. Et cette femme, je m'approche en face. Et puis elle voit que j'ai écrit quelque chose. Et puis finalement, elle n'était pas si méchante parce qu'elle me dit, bah, vous voyez, vous avez quand même réussi à marquer 2-3 trucs. J'ai considéré que c'était positif. En face de moi, et je commence à parler. Et je parle sur ce texte. Et là, je sens vraiment la grâce de Dieu. Et vous me croirez ou pas, mais cette femme qui avait l'air méchante et dure, avec ses petites lunettes sur le nez, là, au milieu du truc... Du truc, parce que je prétends pas que c'était un grand oral. Hein. Je vois la dame qui a une petite larme qui coule. Jamais vu ça de ma vie. Et je parlais de la mort du héros, là, et je vois que cette femme était touchée. Et vous savez, en tant que chrétien, on connaît des fois des choses comme ça. Et je sais pas pourquoi, j'ai pu bien expliquer ça. Et la dame, elle a sorti un mouchoir au milieu. Et là, j'ai compris que j'avais reçu un secours improbable de la part de Dieu. Cette personne, je me battais pour avoir un 14, cette personne, elle m'a mis 20. Alors que cette personne, elle était tout ce que je ne voulais pas. Et je me suis dit, apprends à faire confiance en Dieu, alors que tu es KO, que tu n'as pas dormi de la nuit et que tu as besoin d'un secours, la forme du secours de Dieu n'est pas celle que tu crois. puissions-nous apprendre aujourd'hui que Dieu nous bénira d'une façon qui nous surprendra. Je vous raconte cette histoire. Lorsque M. Abraham, un juif qui habite à Créteil, descendait du mont Mélie pour aller faire ses courses à Créteil-Soleil, d'accord ? Il descend la rue Kennedy, et là, alors qu'il tombe du trottoir, il y a 4 jeunes qui se précipitent dessus, des voyous, qui le tabassent, qui lui volent son portable et qui le laissent, mais à moitié mort sur le trottoir. Il y a un prêtre catholique qui passe, il le voit, et stressé par la situation, il passe sa route. Il y a un chrétien évangélique qui est diacre dans son église, qui bosse beaucoup, qui le voit, et alors qu'il voit ce juif par terre, il ne sait pas comment faire, il panique, il passe sa route. Et là, il y a Rachid qui est responsable de la supérette du coin, un arabe. Il vient, il voit ce juif, il fonce chez lui, il cherche sa voiture, il le met dans la voiture, il le conduit à toute vitesse à l'hôpital Mondor pour qu'il soit soigné, et dit si jamais... Cette personne, si jamais il y a quelqu'un qui ne paye pas, je paye pour lui. Lequel de ces 3 a été un chrétien ? Eh bien, c'est celui que vous auriez dit qu'il ne l'aurait jamais été. C'est Rachid. Et c'est ce que Jésus dit exactement dans une parabole complètement qui nous déstabilise. Oh, vous la connaissez par cœur, d'ailleurs, c'est pour ça que ça ne vous parle plus. C'est la parabole du bon samaritain dans Luc 10. Sachez que le secours ne viendra pas forcément de là où vous croyez. On a étudié, peut-être vous avez étudié, vous avez entendu des dizaines de prédications sur un point de vue de le bon samaritain, où on focalise sur le bon samaritain, cette personne étonnante qui vient nous sauver. Mais moi, je vais vous proposer d'analyser le point de vue interne de celui qui est par terre. On lit au verset 30 de l'évangile de Luc, au chapitre 10. Voici ce que Jésus dit. « Il y avait un homme qui descendait de Jérusalem à Jéricho. Quand il tomba parmi les brigands. » Au verset 30, il nous est dit à propos de ces brigands. « Ils lui arrachèrent ses vêtements, le rouèrent de coups et s'en allèrent le laissant à moitié mort. » Verset 31. « Or, il se trouva qu'un prêtre descendait par le même chemin. Il vit le blessé, s'en écartant, il poursuivit sa route. De même aussi, un lévite arriva au même endroit. Il le vit et s'en écartant, il poursuivit sa route. » Mais un samaritain, Rachid, qui passait par là, arriva près de cet homme, et le voyant, il fut pris de pitié. Il s'approcha de lui, soigna ses plaies avec de l'huile et du vin, les recouvrit de pansements, puis le chargeant sur sa propre mule, il l'emmena dans une auberge où il le soigna de son mieux. Amen. Je remercie Dieu qui est capable de nous apporter un secours lorsqu'on est KO par terre, d'une façon qui nous surprend. Alors je voudrais analyser un petit peu ce qui se passe sur cet homme. Vous connaissez cette situation d'une période dans votre vie où vous descendez spirituellement. Ça vous est déjà arrivé, il n'y a peut-être qu'à moi. Un moment où c'est plus dur de lire votre Bible. Un moment où c'est plus dur de prier. Il y a des moments où on est sur la montagne, on est à Jérusalem. Vous savez que Jérusalem, c'est à 750 mètres de hauteur. En Israël, c'est haut. Hein. C'est sur la montagne. On parle de. Vous connaissez les collines de Sion, la montagne de Jérusalem. Jérusalem sur une montagne, 750 mètres d'altitude. Et la ville de Jéricho, c'est à moins 250 en dessous du niveau de la mer. Ça descend très très vite sur très peu de kilomètres. Il y a une pente qui descend la montagne de Jérusalem jusqu'à Jéricho. Et cette route-là, aujourd'hui encore, hein, c'est une route qui est caillouteuse évidemment, mais qui est très très escarpée, qui descend très très vite. Avec une route très très sinueuse, et à cette époque-là, il y a énormément de brigands. C'est des taillis, c'est une zone dans laquelle il y a des petits arbres, des petits buissons dans lesquels vous pouvez vous cacher facilement. Et à cette époque-là, c'était un endroit classique où les personnes qui descendaient se faisaient piéger. Et en tant que chrétien, moi ça m'apprend quelque chose, des fois on est sur la montagne et on se laisse descendre. Spirituellement, on baisse le rythme. Est-ce que c'est pour autant qu'on tombe ? Non, pas forcément. Pas forcément. Des fois, on est tout simplement spirituellement un petit peu en creux, mais on n'est pas en train de tomber. Vous savez, votre malheur, c'est si jamais vous tombez spirituellement au moment où des méchants sont après vous. Et c'est ça qui va arriver à cet homme-là. Il va tomber parce que il descendait, mais il va tomber parmi les brigands. Il tomba parmi les brigands. Vous savez qu'il y a des brigands derrière votre vie. Vous les nommerez comme vous voulez, mais en tout cas, je peux vous dire quelque chose. En tant que chrétien, vous avez votre tête est mise à prix. On est naïf. On est naïf. On est béni par Dieu. On est rempli de richesses. Et peut-être cet homme-là qui descendait. Vous savez, les brigands, ils n'attaquent pas les pauvres. Hein. En général, ils attaquent quand il y a quelque chose de riche sur quelqu'un. Et je ne sais pas si cet homme qui descendait de Jérusalem à Jéricho, mais il ne devait même pas se rendre compte combien il avait été béni. Et les brigands, ils ont vu ce qu'il avait sur lui. Et ils se sont dit, ça, c'est quelqu'un qui est béni, c'est quelqu'un de riche, on va le piller. Quand tu es chrétienne, quand tu es chrétien, sache que le diable en veut après ta vie parce qu'il voit qu'il y a sur toi des bénédictions de Dieu. Je ne sais pas si c'est par rapport à ta personnalité, si c'est ton caractère qui est devenu un bon caractère. Et Satan est énervé de te voir comme ça, aussi ressemblé à Jésus, aussi béni par Dieu. Dans tes finances, peut-être dans ton couple, dans ta famille, il en veut à toi, il en veut à tes enfants parce qu'il se dit, c'est cette personne-là, elle est bénie. Alors toi, tu dis, mais c'est là pourquoi je suis autant attaqué? Parce que lorsque tu es béni par Dieu, il en veut à ta vie. Et c'est tout à fait normal, ne sois pas étonné, enfant de Dieu, que lorsque tu vas bien, lorsque tu es béni par Dieu, tu es attaqué. Et regardez, notez bien cela, c'est au moment où tu descends un petit peu, il l'attendait peut-être. Il s'est dit, tant qu'il est à Jérusalem, on ne peut pas le toucher. Mais quand ce chrétien, cette chrétienne, qui est béni par le Seigneur, commence à prendre des vacances spirituelles, on est au mois de juillet, il y en a qui vont prendre des vacances. Prenez pas trop des vacances spirituelles. Quand vous prenez des vacances de descente, là, quand vous descendez vers la mer, c'est là qu'il vous croque. Il vous attend. Il vous attend des fois. Méfiez-vous de cela. Le plan de l'adversaire, c'est très simple. C'est trois choses. Un plan en trois étapes. D'abord, qu'est-ce qu'il fait? Il lui arrachèrent ses vêtements. Deuxièmement, ils le rouèrent de coups. Et troisièmement, ils le laissèrent pour mort. Ça, c'est le métronome de l'enfer, le tic-tac, le plan comme il l'a prévu. D'abord, arracher les vêtements. Vous savez que quand un brigand, normalement, il attaque, d'abord, on essaye de... Quand il y a un combat comme ça, ça aurait été plus logique qu'il le frappe d'abord, qu'il le rouère de coups d'abord. Vous n'avez pas vu que c'est bizarre? Ils ont commencé par arracher les vêtements, dis donc. Je me suis dit, spirituellement, ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'en tant que chrétien, la première chose que le diable va vouloir t'arracher, c'est ton armure spirituelle. Vous connaissez ce chant qui dit « Je suis revêtu du vêtement de sa justice, Jésus vit en moi ». Tant que tu es bien revêtu par Jésus, que tu es proche, tu es entouré, ton vêtement, lorsque tu as bien mis tes habits, vous savez ce qui est décrit comme les armes de l'esprit, l'armure de l'esprit, le casque, l'épée. Quand tu es comme ça, il ne peut pas trop s'approcher. Alors, la première chose qu'il veut faire, c'est arracher ça. Et une fois qu'ils lui ont arraché ses vêtements, ils le rouèrent de coups. Lorsque vous commencez à souffrir, vous dites, est-ce qu'ils vont encore me frapper ou est-ce qu'ils vont s'arrêter? Et le problème là, c'est que ça tape et ça tape et ça tape encore. Et peut-être les trois premiers coups, vous les encaissez, mais c'est au bout d'un moment, vos forces commencent à baisser. Et cet homme-là, à force d'être tabassé, rouère de coups, est en train de sombrer. Et il va sombrer jusqu'à un point où, troisième étape, des plans de l'enfer. Maintenant, on te laisse. Ciao. Je ne sais pas si c'est une situation que tu vis, mais le plan de l'enfer, c'est après t'avoir entouré de gens tordus qui t'ont volé tout ce qui était tes trésors spirituels. Ces personnes que tu croyais, peut-être avec qui tu pouvais négocier, n'ont pas négocié avec toi. Et à la fin, ils t'abandonnent. Je ne sais pas s'il y a des mamans célibataires dans la salle qui ont été comme ça, mais abandonnées auprès de personnes qui pensaient qu'ils pouvaient négocier. Le diable ne veut pas négocier avec toi. Le diable prend ce que tu as et une fois qu'il l'a pris, il part avec. Il part avec et il te laisse seul au bord de la route. Et il te laisse seul, seul, seul. Et cet homme est laissé à moitié mort, il est seul au bord de la route. Des fois, en tant que chrétien, c'est ce que l'on vit. Je voudrais juste vous donner une illustration par rapport à ça. Des fois, vous êtes malmené par la vie et vous n'aviez fait aucune erreur. Des fois, c'est la maladie qui vient sur vous. Vous aviez, en tant que chrétien, des fois, on peut devoir faire face à cela. Est-ce que tu crois que Dieu peut te donner un secours improbable? Est-ce que tu crois que Dieu peut te donner un secours improbable? Ma grand-mère est une femme de foi, une femme de Dieu. Je suis toujours étonné parce que à chaque fois que je l'ai appelée, elle était toujours de bonne humeur. Et je sais que c'est rare, les gens qui sont toujours de bonne humeur. Jamais en train de se plaindre. Elle était à 80 ans dans sa grande maison toute seule. Et je disais, mamie, comment tu vas? Je vais bien. À 80 ans, elle prenait sa voiture, elle conduisait toutes ses copines à l'église. Elle allait louer le Seigneur. Et toujours, toujours de la louange, toujours quelque chose de positif. Vraiment, c'était ça. Marque de fabrique, c'était le sceau de Dieu sur sa vie. Et vous voyez, il y a un moment où elle se plaignait jamais d'ailleurs, elle a une douleur qui est venue à la mâchoire et elle a laissé un peu traîner. Et au bout de quelques temps, elle a fait quand même une radio et on s'en est rendu compte que en fait, c'était un cancer très avancé de la mâchoire. Alors, en un instant, son monde s'est effondré. Son monde s'est effondré. Son monde s'est effondré et elle a été opérée, mais on a dû enlever vraiment des masses importantes. Donc, pour elle, c'était la fin. Et c'est la première fois que j'ai vu ma grand-mère comme ça lorsque je suis allé la visiter au CHU. Elle disait, c'est fini. C'est fini, là je suis... C'est arrivé à la fin de ma vie. Des fois, vous vous sentez à moitié mort comme ça. Hein. Et vous savez pas quoi? Quand le diable vous embête et vous laisse à moitié mort, il a tort. Parce que si vous êtes à moitié mort, c'est que vous êtes à moitié en vie. Et Dieu peut vous relever même si vous êtes à moitié mort. Parce qu'il voit en vous quelqu'un qui est à moitié en vie. Et ces brigands l'ont laissé à moitié mort. La grosse erreur. La grosse erreur. Parce que lorsqu'un enfant de Dieu est comme ça, un secours improbable peut venir de Dieu et relever celui qui est à moitié en vie. Et moi, je suis étonné parce que ma grand-mère aujourd'hui, elle est en pleine forme. Elle est en pleine forme. Et elle qui pensait que c'était fini, qu'elle ne servait plus à rien et que son temps était revenu pour aller rencontrer son Dieu, cette grand-mère-là, j'ai appris il y a une semaine et demie qu'elle est en train de former un futur pasteur à apprendre le grec. Parce qu'elle est prof de français et prof de grec. Et je dis, c'est bien ça! Parce que des brigands, quand ils nous tabassent et qu'ils nous laissent à moitié mort, ils ont tort. Vous voyez, Job, le diable a pu le laisser à moitié KO. Mais à partir du moment où il y a de la vie, s'il y a Dieu, il y a un secours improbable qui peut venir. Et je bénis le Dieu des secours improbables. Alors, je ne voudrais pas vous annoncer un rêve, parce que je vais vous dire quelque chose. Des fois, vous allez attendre un secours qui ne va pas venir de qui vous pensiez. La première personne qui va passer, c'est un prêtre. Et imaginez-vous, vous êtes par terre, vous êtes KO, vous êtes dans la poussière, vous avez l'œil tuméfié, vous avez les cheveux arrachés, vous avez du sang, vous ne pouvez plus bouger, vous ne pouvez même plus pleurer, vous avez mal, vous souffrez. Et là, vous entendez un bruit, vous vous dites « Alléluia !» J'entends un bruit des pas qui vient. Et vous dites « C'est un prêtre, c'est bien !» C'est un homme de Dieu. Des fois, tu es prêt à te raccrocher et tu te dis « Ah, mais si seulement j'avais un chrétien, un homme de Dieu qui venait me bénir !» Et le prêtre va passer, dis donc. Et le mot, c'est il va le voir. Il va le voir. D'ailleurs, il va le voir très rapidement. Hein. Il le vit, il détourne le regard et il passe à côté. Des fois, j'aurais préféré ne pas avoir espéré. Ça vous est jamais arrivé de regretter d'avoir espéré? Lorsque vous étiez mal et que vous êtes mal et que vous avez un espoir déçu, c'est pire que s'il n'y avait pas eu d'espoir du tout. Et là, je pense que ça a dû... Le peu de morale qui restait à cet homme qui était laissé pour mort. Pourquoi le prêtre a fait ça? Quand vous ouvrez dans le livre de Lévitique, si vous acceptez juste de faire une étude biblique un tout petit peu plus approfondie ce matin, dans le livre de Lévitique, au chapitre 21, verset 1er, j'ai compris pourquoi ce prêtre qui aurait dû agir d'une autre façon a agi comme ça. Lévitique 21. N'espérez pas trop des gens religieux. Hein. Vous allez être déçus. Vous allez être déçus. L'Éternel dit à Moïse, parle aux prêtres, fils d'Aaron, donc aux prêtres, donc à des gens comme lui, et dis-leur, un prêtre ne doit pas se rendre rituellement impur en touchant le corps d'une personne de son peuple qui vient de mourir. Au verset 2, excepté s'il s'agit d'un proche parent, sa mère, son père, son fils, sa fille, son frère ou sa sœur, si elle n'est pas mariée, etc. Qu'est-ce qui s'est passé? Et le dernier verset, d'ailleurs je vais peut-être prendre le verset 4 quand même. Chef parmi son peuple, il ne se rendra pas impur pour profaner ce peuple. Monsieur le prêtre, monsieur le pasteur, on pourrait dire, monsieur l'évangéliste international, vois cette personne par terre rouée de coups. Pourquoi elle ne le fait pas? Parce que déjà, il dit, il est mort. Alors qu'il n'est qu'à moitié mort. Mais des fois, vous allez avoir des personnes qui devraient vous donner des paroles de foi qui vont vous donner des paroles de mort. Vous allez avoir des personnes qui étaient censées vous faire du bien et vous remonter le moral qui vont vous fusiller. Ils vont dire, cet homme-là va passer, ce prêtre, il va dire, il est à moitié mort, pour moi, il est mort, c'est fini. Et il ne va pas vouloir le toucher parce qu'il dit, s'il est mort, je n'ai pas le droit de toucher. Pire que ça, il va dire, en plus, je ne le connais pas, ce n'est pas un de mes proches. Si ça avait été mon père, si ça avait été ma mère, si ça avait été mon frère, mais puisque c'est quelqu'un, je passe. Des fois, vous avez peut-être certains ont été blessés par des personnes qui auraient dû être des hommes de Dieu dans votre vie et qui ne l'ont pas été. Et qui ne l'ont pas été. Et enfin, la dernière erreur de ce prêtre-là, c'est qu'il dit, je suis un chef. Je suis un chef. Et un chef, je ne m'abaisse pas à ça. Et il n'a rien compris de l'évangile. Et c'est pour ça que Jésus fait exprès dans cette parabole de dire, si c'est comme ça que vous comprenez la loi, vous n'avez rien compris au plan de Dieu. Si c'est comme ça que vous interprétez la parole de Dieu du Lévitique, vous n'avez rien compris. Vous n'avez rien compris. Parce que celui qui a été le véritable ami, le véritable prochain, c'est celui qui agit différemment, c'est Rachid. Alors le deuxième, le Lévite. Le Lévite, si vous connaissez un petit peu votre Bible, là je fais aussi un petit peu une étude biblique, mais les Lévites, c'était ceux qui étaient responsables des villes de refuge. Les villes de refuge, c'était eux qui étaient censés aider les immigrés, qui étaient censés aider lorsqu'il y avait quelqu'un qui avait été accusé à tort par quelqu'un d'autre et qui s'enfuyait, il devait assurer le secours. En gros, c'était le service d'urgence, les infirmeries, tous ceux qui aident les personnes en détresse. Le Lévite, il le voit, dis donc. Et il passe son chemin. Peut-être qu'il n'avait pas de temps. Il va dire, non, mais je suis pressé, je n'ai pas le temps. Là, ça va me prendre du temps, cet homme-là, il est malade, etc. Et ça peut ressembler à nous, les chrétiens évangéliques. À toi qui prétends être un enfant de Dieu. Des fois, tu vas passer auprès de quelqu'un. Tu n'as pas de bonne excuse. Hein, mais tu vas trouver des choses. Alors que ta mission numéro un, c'est de bénir. Tu vas tracer ta route. Tu es passé à côté de ton ministère. Tu es passé à côté du sens de ta vie. Et alors, je bénis Dieu parce que le Seigneur va prendre l'image de ce Samaritain. Ce Samaritain, pour les Juifs, c'est l'ennemi suprême. Je vais vous donner une preuve pour terminer là-dessus. La preuve que le Samaritain, l'équivalent le Palestinien, l'Arabe, vraiment la personne qui normalement est en guerre contre Israël, et alors que c'est un Juif qui est par terre, hein, vous comprenez le conflit religieux ethnique derrière. Et ce Samaritain, les Juifs ont tellement de préjugés contre les Samaritains qu'ils n'ont même pas le droit de prononcer leur nom. À la fin de la parabole, si vous suivez bien, quand Jésus va dire, et Jésus est très très, bon, c'est pas malin, il a une sagesse complète, une sagesse de Dieu, et Jésus va bloquer ce pharisien, ce chef de la loi, celui qui enseigne les autres en lui disant, qui a été le prochain de ce malheureux? Et vous savez ce que ce juif ultra pratiquant va répondre? Il va répondre, celui qui a pris soin d'eux. Il n'a même pas été capable de prononcer le Samaritain. C'était trop dur pour lui de dire Rachid. Et pour nous aussi, des fois. Vous savez que Dieu va vous bénir d'une façon qui vous surprend, avec des personnes que vous imagineriez même pas, parce que Dieu est infiniment au-delà de tout ce que tu anticipes dans tes préjugés. Toi, tu t'attends peut-être ce matin, c'est peut-être une pensée simplement pour quelqu'un. Je ne prétends pas que ce message va toucher forcément tout le monde, mais il y a une personne pour qui Dieu veut parler. Tu as été roué de coups, tu es par terre. Tu n'as même plus la force de pleurer, même plus la force de crier. Tu as attendu le secours, tu as cru que le secours viendrait d'une certaine direction. Il n'est pas venu. Tu as vu des frères et des sœurs et tu attendais le secours de leur part et il n'est pas venu. Mais sache que Dieu vient. Et ce Samaritain qui représente ce que Jésus a fait. Hein. La première chose, c'est que les autres l'ont vu, alors que le Samaritain, il est dit en le voyant. Je ne sais pas si vous avez analysé la différence. Voir quelqu'un et en le voyant, ça prend du temps. Le Samaritain, lui, va pas zapper, il va pas changer de chaîne quand il va voir ce malheureux. Ce Samaritain, il va dire, je le vois et je continue à le regarder. Et Dieu, quand il regarde ta vie, il ne zappe pas sur ta vie. Dieu prend le temps d'analyser où tu es. Après, deuxième chose que je note, c'est qu'il s'approche. Ce Samaritain, c'était le seul qui était sur un animal. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il avait une mule. Il était au-dessus. Donc théoriquement, celui à qui ça coûte le plus, c'est celui qui est sur sa mule. Ce n'est pas les autres, ils étaient à pied. Mais le Samaritain, lui, il descend. Il s'abaisse pour aller prendre soin de ce blessé. Extraordinaire. Il dit, ma place, c'était là-haut. Et toi, tu étais en bas. Et il dit, ben maintenant, c'est toi que je mets en haut. Je te charge. Et toi, tu vas en haut et moi, je vais en bas. Ça, c'est Jésus. Chaque fois que vous voyez quelqu'un qui fait ça pour vous, c'est un ange de l'Éternel. C'est un envoyé de Dieu pour vous. Il s'abaisse pour que je puisse monter. Je bénis le Dieu qui s'abaisse pour que je puisse monter. Est-ce que tu sauras discerner ce matin le secours qui vient de Dieu? Est-ce que tu crois encore au secours qui vient de Dieu? Tu es à moitié mort? Tu es à moitié en vie. Il y a un secours qui vient de Dieu. On va fermer les yeux ensemble. Pendant que les yeux sont fermés, les têtes sont courbées. Tu as fait des plans dans ta tête. Tu n'allais pas bien et tu as imaginé comment Dieu allait pouvoir te sortir de cette situation. Je ne sais pas si c'est une angoisse financière, une angoisse affective, une angoisse physique par rapport à ton corps. Tu t'es dit, mais si Dieu fait ça, d'accord. Et Dieu n'est pas intervenu par les personnes sur lesquelles tu avais compté. Mais il y a un Dieu dans le ciel dont le nom est fidèle, dont le nom est fidèle. Le nom de ton Seigneur est fidèle, celui qui ne change pas, celui qui reste à côté, pas comme ces brigands qui t'ont laissé tout seul. Le nom du Seigneur est fidèle. Sa fidélité est tellement grande qu'il s'abaisse, qu'il s'approche de toi et qu'il vient te charger ce matin, qu'il vient te lever à toi qui es par terre et affligé. Je bénis celui qui met de l'huile sur mes plaies, qui guérit mes maladies. Sur celui qui réconforte, celui qui n'a plus la force de marcher, celui qui pourvoit en donnant une limousine à celui qui n'a plus de moyens de locomotion. Je bénis le Dieu qui est fidèle. Alléluia. Alléluia. Y a-t-il quelqu'un ce matin qui a encore le courage de rassembler ce qui lui reste de vie à l'intérieur pour s'attendre à Dieu d'un secours qui soit improbable? Alléluia Jésus. Tu ne sais pas ce que Dieu a prévu pour toi. Tu fais peut-être une croix sur certaines choses de ta vie en disant c'est foutu, c'est fini. Et Dieu te dit, laisse-moi faire. Alléluia. Alléluia. C'est pas parce que les autres t'ont déçu que moi je te décevrai. Les yeux sont fermés, les têtes sont courbées. Je crois que peut-être il y a quelqu'un dans cette salle qui... refuse maintenant d'être touché, qui refuse d'être aidé, alors que le chemin de Dieu est bizarre et étonnant sur ta vie, mais Dieu est en train de pourvoir à une solution. Laisse Dieu te bénir. Laisse Dieu te guérir. Alléluia, Jésus. Alléluia. 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 Est-ce que quelqu'un a besoin de la prière ce matin ? À terminer ce moment, est-ce que quelqu'un a besoin de la prière ? Est-ce que tu veux lever la main ? Tu peux baisser la main. Je t'ai vu. Amen. 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 Alléluia. Vous êtes nombreux, nombreuses ce matin. Alléluia. Seigneur. Oh Jésus, le Saint-Esprit est dans ce lieu. Je ne pensais pas que c'était pour toi aussi. Je suis heureux de savoir que Dieu te touche. Alléluia. Alléluia. On va se lever tous ensemble. On va garder les yeux fermés. On se lève, mais on va garder les yeux fermés. Et on va intercéder pour tous nos amis. Vous savez, si on est des Lévites ou si on est comme les prêtres, on va zapper sur les personnes qui ont besoin de Dieu ce matin. Mais on ne va pas faire comme ça. Je comprenne le temps pour dire, Seigneur, viens toucher nos bien-aimés. Tu peux que une prière pour celui qui a levé la main. Mais si tu ne pries pas, tu ne lui tends pas cette main d'amour que Dieu veut que tu lui tendes. Amen. Y a-t-il quelqu'un qui est prêt à intercéder avec moi pour ceux qui ont besoin de la grâce de Dieu ? Oh Jésus ! Oh Jésus ! Commence à prier à ta place. Ce n'est pas dans le bruit que Dieu se révèle, forcément. Ce n'est pas non plus dans le silence. C'est tout simplement dans la vérité. C'est si tu es vrai avec Dieu, que tu intercèdes véritablement pour les personnes à côté de toi qui ont besoin de Dieu. Et si c'est toi qui as besoin, qui est roué de coups et qui est par terre et qui n'espère plus, laisse Dieu te surprendre. Sa fidélité est grande. Alléluia. Seigneur, je te prie pour ces personnes qui, ce matin, sont peut-être debout là maintenant, mais à l'intérieur sont brisées. Seigneur, ces personnes qui ont levé la main et qui ont tellement besoin de ta grâce. Seigneur, tu es le Dieu qui les surprend. Ils ont attendu le secours de plein de, peut-être de situations ou de personnes et ce secours n'est pas venu. Donne-leur de se confier en toi et en toi seul, Seigneur. Tu es celui qui ne change pas, qui a pourvu hier, qui pourvoit aujourd'hui, qui pourvoira demain. Tu es le Dieu qui a aidé dans les moments difficiles comme dans les moments faciles. Seigneur, je te prie pour qu'en cet instant, la guérison descende dans les corps. L'apaisement vienne, Seigneur, dans l'âme. Que ceux qui sont brisés, blessés à l'intérieur, soient guéris par toi. Seigneur Jésus, ce n'est pas dans une religion que nous mettons notre foi. Nous mettons notre foi dans celui qui prend une forme, qui nous surprend toujours, mais qui est toujours fidèle. Alléluia, Jésus. Est-ce qu'on peut célébrer Dieu en chantant « Ta fidélité, Seigneur, est grande. Grande est ta fidélité. » Ces paroles sont toutes simples. Alléluia.
Ta fidélité est grande.
Commence à célébrer Dieu pour les choses qu'il a faites pour toi. Rappelle-toi peut-être le jour où toi tu étais par terre et où Dieu t'a relevé.
Nul n'est comme toi, ô Seigneur. Grande est ta fidélité. Ta fidélité est grande. Ta fidélité est incomparable. Nul n'est comme toi, ô Seigneur. Grande est ta fidélité. Ta fidélité est grande.
Comme une prière sur
ta fidélité.
Peut-être tu n'as pas beaucoup de force pour chanter ce chant, mais avec le peu de force qui te reste, commence à louer Dieu.
Ô Seigneur,
ô Seigneur,
grande est ta fidélité.
Est-ce qu'on peut le reprendre une dernière fois comme un murmure ?
Ta fidélité est grande. ta fidélité est incomparable. Nul n'est comme toi, ô Seigneur, grande est ta fidélité.
Seigneur Jésus, tu as devant toi dans cette salle tes enfants qui te bénissent. Certains, on est passé par des moments tellement durs où on avait presque tout abandonné. Abandonné l'espoir, abandonné la force, abandonné même notre capacité à prier, à te louer, à te chanter. Mais Dieu, tu es venu nous chercher, même quand on n'était plus capable de louer. Je te remercie parce que tu m'as aidé dans les moments où je ne m'attendais plus à rien. Et je te prie pour que ce matin, toi qui as entendu notre prière et qui as parlé à une personne, tu relèves cette personne qui ne s'attend plus à rien. Tu es le Dieu qui la surprend, qui le surprend cette matinée. Et je te bénis pour ce que tu as fait. Seigneur, qu'on ressort différemment de ce lieu. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Alléluia. Tu peux reprendre place.